Fluxfort.
Mécanisme velouté.
Mixage fusionnel.
Et Fluxfort, et nous avons repris nos quartiers sur la mezzanine du Kinépolis Belfort, lieu qui accueille le festival Entrevue toute cette semaine en compagnie de la critique de cinéma Oikou Sofuoglu. Nous accueillons maintenant la réalisatrice, photographe et plasticienne Anaïs Hibert. Bonjour Anaïs.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc une artiste pluridisciplinaire avec une prédilection forte pour la pratique du collage. Nous y reviendrons pendant l'interview. Vous êtes membre du laboratoire L'Abominable, Navire Argo, et vous avez à votre actif plusieurs films expérimentaux. Et à Belfort cette année, vous présentez en compétition votre premier court-métrage de fiction produit qui s'intitule Ostatenham. Alors Ostatenham, c'est le nom d'un village normand qui n'existe pas sur les cartes, mais que vous avez imaginé pour l'occasion. Quelques indices dans le film nous laissent à penser qu'il se situe près de la mer. Vous mettez en scène une poignée de ses habitants, ou plus précisément trois personnages, une adolescente, une femme adulte et une fillette, voisine les unes des autres.
Excusez-moi.
Pardon, oui.
C'est pas une petite fille, c'est un petit garçon en fait.
C'est un petit garçon, ouais. Ok, autant pour moi, je suis vraiment désolé. C'est vrai que.
Il y a beaucoup de gens qui font la confusion. Mais parce
qu'il s'appelle Timothée.
Il s'appelle Timothée.
Donc ça aurait dû me mettre sur la voie, c'est vrai. mais.
Non,
voilà.
Mais il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que Timothée est une petite fille parce que Oscar, qui joue le rôle, a les cheveux longs. Il a des traits très fins. Et comme sa voix n'a pas mûri.
Sa voix, oui, tout à fait.
Voilà, mais je voulais quand même.
Ah bah vous avez bien fait de préciser. Donc on va dire une adolescente, une femme adulte et un petit garçon, qui sont tous voisins les uns des autres, dans une rue qui est bordée de maisons identiques. On parlera aussi de ce lieu que vous avez trouvé pour tourner ce film. C'est l'été, une lumière dorée baigne langoureusement ce quartier pavillonnaire, où la chaleur caniculaire semble stagner et ralentir le temps. Les jours passent au son d'une compétition de natation synchronisée retransmise par les radios et télévisions locales. Et la nuit, vos personnages peinent à trouver le sommeil, hantés qu'ils sont par des rêves étrangement inquiétants qu'ils ressentent par la suite le besoin de verbaliser d'ailleurs. Alors n'y allons pas par quatre chemins, Ostatenham est un enchantement d'essence et une petite merveille de film atmosphérique où la poésie et le fantastique s'invitent avec discrétion dans une réalité en apparence des plus quotidiennes. Le film nous fait renouer avec une expérience primitive et essentielle de spectateur de cinéma, à savoir éprouver du plaisir en contemplant tout simplement des couleurs, des lumières, des corps, des visages, que vous parvenez, Anaïs Hibert, à rassembler dans des images extrêmement belles et soignées, où l'attention portée au cadre et à la composition, fait écho à la manière subtile dont vous disposez des couleurs et des corps dans l'espace de vos plans. Alors les couleurs, justement, parlons-en pour commencer cet entretien. Ostatenham est un film où si l'on s'amusait à faire un arrêt sur image sur chacun de vos plans, on se retrouverait avec une série de photos en couleur qui n'aurait pas à rougir de la comparaison avec certains grands photographes couleurs, je pense en particulier aux Américains, des gens comme William Eggleston, Joel Sternfeld ou plus près de nous Alex Soth. Vous composez vos images avec des couleurs élémentaires qui rappellent un peu le rendu du Kodachrome et qui investissent d'une manière qu'on imagine tout à fait voulue de votre part les vêtements des protagonistes, les espaces dans lesquels ils vivent, les objets dont ils sont entourés. D'ailleurs, c'est dans ce sens que le premier dialogue du film annonce la couleur, si vous me pardonnez ce mauvais jeu de mots. On entend une mère annoncer à sa fille qu'elle a fait un bouquet le jour précédent. Il était de quelle couleur, demande l'adolescente. Jaune et rouge, répond-elle. Alors, pouvez-vous nous dire ce que la couleur représente dans votre travail et la manière dont vous lui faites cette place prépondérante et poétique dans Ostatenham ?
Tout d'abord, je suis impressionnée par votre texte et je vais rougir.
On est à la radio, donc malheureusement, ce moment
ne se
verra pas, mais les auditeurs peuvent l'imaginer. Et du coup, moi aussi, je rougis.
Effectivement, je souhaitais que le film soit flamboyant de couleurs, avec une lumière d'été assez écrasante. En fait, je pense que je voulais contrebalancer la dramaturgie du scénario, les dialogues qui sont assez lourds, où les personnages vont très mal au début du film, mais pas à la fin. Enfin, mieux à la fin. Et j'avais vraiment un souhait de... que cette mélancolie, que cette presque une dépression, un peu
un spleen
latent comme ça, soit flamboyant de couleurs. Et c'est vrai que ça passait beaucoup dans les costumes, dans les décors, le choix de la pellicule aussi pour filmer. Et après, pour être tout à fait honnête, je suis pas du tout quelqu'un. Enfin, évidemment, c'était un choix de ma part de vouloir ça, mais je ne saurais pas vraiment expliquer ce choix parce que je pense que je travaille d'une manière très intuitive. Et en fait, là par exemple, pendant le festival, on m'a posé des questions et tout, et ça, j'ai redécouvert le film à travers les questions, des choses que j'avais pas vues dans le film en fait. Et du coup, je suis pas très bonne pour être interviewée.
sur cette question de la couleur, justement, vous parlez de votre pratique intuitive, votre approche intuitive de la couleur. Mais est-ce qu'en amont du travail directement sur l'image, sur le plateau du film, du tournage, vous vous documentez, par exemple ? Est-ce que vous avez des références visuelles en tête ou des choses comme ça ?
Ça, c'est vrai. Moi, j'avais les images de Saul
Leiter.
Ouais, en tête, que c'est un photographe américain que j'aime beaucoup, qui travaille beaucoup la couleur. Donc, j'avais vraiment plein d'images de Saul Leiter en tête.
Donc, chez qui on trouve cette volupté de la couleur, effectivement.
Ouais.
Et ces rouges qui sont aussi
c'est
bien
rouge,
présents.
C'est rouge, c'est jaune, ouais. Exactement.
Et du coup, vous parliez de l'argentique.
Je crois
que vous avez travaillé uniquement en argentique jusqu'à présent sur vos productions filmiques et cinématographiques.
Alors, j'avais fait un film d'animation en numérique en 2008, co-réalisé avec Victor de las Heras. Là, on travaillait en numérique, on faisait nos films ensemble à l'époque. Et ensuite, j'ai découvert le laboratoire partagé, l'Abominable. Et j'avais un fort désir de travailler la pellicule, enfin avec la pellicule, pour plusieurs raisons. Parce que, en fait, il y a une esthétique intemporelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dater une image argentique, mis à part de ce qu'on y voit. Et comme je travaille beaucoup autour du rêve, je trouvais que c'était en adéquation avec ce désir de créer un univers un peu flottant, où on n'a pas de repères. Et aussi au niveau technique, tout simplement parce qu'il y a une concentration sur le plateau. On n'a pas de retour. Bon, là, j'avais un retour sur Osatana, mais j'en avais pas. Normalement, j'en ai pas. Et je fais aussi de la photo en argentique. Et moi, j'adore le fait qu'on crée les images sans les voir. Et que du coup, comme il y a tout le processus du développement, du scan et tout, ça prend du temps. En fait, on oublie ce qu'on a filmé et on accepte la matière comme elle est, pour ce qu'elle est, en fait. Et on peut travailler vraiment le film comme il est et pas ce qu'on a projeté dessus, quoi. Enfin, voilà.
Très cool.
Vous avez aussi travaillé avec des pellicules pour des films plutôt, on peut qualifier comme expérimental. Du coup, j'aimerais savoir, j'aimerais vous interroger sur ce processus de passage à un cinéma dit expérimental à plutôt une fiction. Ouais. Quelles étaient les exigences, les défis que vous avez rencontrés pendant la préparation et le tournage?
Alors en fait, au Staten Island, c'est un projet que j'avais commencé à écrire il y a 15 ans. La première version, c'était il y a 15 ans. J'avais travaillé avec une boîte de production à l'époque pour essayer de le faire. J'étais assez jeune. Ça s'était pas bien passé du tout. Et du coup, je ne voulais plus travailler avec une boîte de production. Et je voulais faire mon chemin seul pour apprendre à me connaître et comprendre qui j'étais et quel était mon langage cinématographique, en fait. Enfin... Et finalement, y a un moment dans ma vie où je m'ennuyais, quoi. Et j'ai ressorti le projet et je l'ai totalement réécrit avec toute cette expérience de film expé que j'avais fait pendant plusieurs années. Et il se trouve que par hasard, on m'a parlé de ma productrice, du coup. Excuse-moi, je bégayais. Mathilde Delaunay. qui cherchait des projets. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas lui proposer, je ne la connais pas, on verra. Et du coup, elle a aimé et on est parti pour travailler ensemble. Et j'ai pas, enfin, c'était pas un souhait de ma part de d'être produite vraiment, ça c'est venu quoi, comme ça, assez naturellement. Et pour être honnête, ça a été un peu dur au Statenham pour moi, au niveau de la. Surtout au niveau de la temporalité. Parce que moi, je suis très lente. Par exemple, entre le moment du tournage et le moment du montage, il peut se passer un an quand je fais des films XP. Et là, entre le tournage et le montage, il s'est passé un mois. Parce que, en fait, quand on est produit, c'est la productrice qui organise, en fait, finalement. Et j'avais cette sensation que c'était Mathilde qui organisait mon emploi du temps pendant un an. Et c'est très étrange, en fait. Enfin, en fait, moi, j'ai vraiment la sensation, comme je n'avais jamais fait de film produit, d'être spectatrice, en fait, du processus. Comme je l'avais jamais fait, je me suis sentie un peu à l'écart, bien que les gens m'ont dit que non, mais enfin, toutes les personnes qui ont fait le film, qu'on a fait le film ensemble, elles m'ont pas dit que j'étais spectatrice, mais moi, je me sentais spectatrice. Et du coup, c'était en même temps très agréable de ne pas être seule. Parce que quand je fais les films autoproduits, je suis très seule, même si j'ai mon équipe avec qui je bosse depuis des années. C'est moi qui ai organisé, c'est moi qui... Enfin, si j'étais pas là, il n'y avait pas de film. Alors que sur Statenham, nous étions deux avec Mathilde. Et c'était agréable de ressentir la présence de Mathilde qui était vraiment aussi investie que moi, quoi.
En fait, quand vous parlez de l'état d'être spectatrice, ouais. Ça me fait penser aussi l'état de vos protagonistes qui rêvent, qui fait l'expérience d'un rêve, en quelque sorte, comme si ce rêve ne l'appartenait pas. Donc, est-ce que vous voyez une sorte de parallèle entre leur état et votre état pendant la production, peut-être?
Oui, c'est assez c'est intéressant ce que vous dites, vraiment. Mais oui, c'est possible, ouais, effectivement.
Et puis par rapport d'ailleurs à cette notion de spectateur, d'être spectateur de son propre film ou spectatrice de votre film, moi je pense au montage. Parce qu'en fait, le montage, c'est un moment du film où il faut être spectateur de son film, où on est le premier spectateur de son film. Ouais. Donc, je pense que du coup, peut-être que ce que vous éprouviez sur le tournage et qui a pu vous mettre pas forcément très à l'aise par rapport à votre pratique expérimentale en solitaire, en revanche, dans la table de montage, j'imagine que c'était un tout autre sentiment, du coup.
Bah, du coup, c'était aussi très étrange pour moi, parce que d'habitude, c'est moi qui monte mes films, toute seule. Et moi, en général, quand je fais un film expérimental, je n'ai pas de scénario. Et je travaille beaucoup sur l'improvisation. Et je tourne aussi moi-même des images. J'aime bien bosser avec plusieurs personnes à l'image, parce que je dis que je fais des films comme des collages. Et donc, du coup, j'aime que les chefs-op apportent leur sensibilité particulière à leur manière d'être. Et donc, c'est important pour moi qu'il y ait plusieurs personnes qui filment, et moi aussi, pour avoir une matière diverse, donc avec des pellicules diverses aussi, des émulsions différentes, du Super 8, du 16 mm. Et après, quand j'ai accumulé suffisamment de matière, j'écris au montage. Et là, sur Statenham, c'était l'opposé, en fait. C'était le contraire de ma façon habituelle de faire des films. Mais j'étais hyper curieuse de voir comment ça se passait. Et là, j'ai monté avec une monteuse qui est une amie à moi, très chère, qui s'appelle Marie Beautois. Et c'est la première fois que je travaillais avec une monteuse. Et j'étais aussi spectatrice un peu. J'ai trouvé, quoi. Après, je sais pas. C'est mon sentiment. Mais Marie, elle a une sensibilité magnifique. Et en plus, elle n'avait jamais vraiment monté de la fiction. Elle avait beaucoup monté du documentaire. Et c'est marrant parce que Oscar, Nathanaël et Astrid, les trois actrices et acteurs du film qu'on voit le plus, c'était leur premier film aussi, quoi. Donc c'est comme si on était tous un tout petit peu débutants, enfin pas tous, pas tout le monde évidemment, mais en tout cas pour certains, certaines.
En plus, si je ne me trompe pas, vous faites partie de la même collectif La Poudrière avec Marie.
Alors moi je ne suis plus membre de La Poudrière, mais j'ai été au début de La Poudrière, ouais, il y a quelques années, je suis restée 2 ans.
Ouais. Oh, okay.
Et effectivement, on s'est vraiment rencontrés, enfin on se connaissait, mais on a connecté vraiment à La Poudrière, comme beaucoup d'amis d'ailleurs, femmes que j'ai, qui sont de grandes réalisatrices.
Alors je l'ai dit dans mon introduction, le collage, c'est une pratique, une forme qui est vraiment importante dans votre... justement dans votre création et dans votre imaginaire. D'ailleurs, le film s'ouvre sur un collage. Elle se termine aussi sur un collage, je crois, d'ailleurs.
Oui.
Ce sont les vôtres, d'ailleurs, qui sont filmés.
Oui, en ouverture, c'est un détail d'un collage. Et à la clôture du film, c'est un collage, mais que j'ai rajouté des images de nageuses que j'avais faites à l'INSEP avec les nageuses qu'on a filmées pour le film.
Voilà, je voulais en venir là justement sur la nature de ces images et le statut de ces images qu'on voit dans le film, puisqu'en fait, à un moment donné, vos protagonistes regardent une compétition de natation synchronisée et ça ressemble tout à fait à une captation telle qu'on peut l'avoir sur la télé publique, par exemple, de ce genre de performance sportive. Vous avez tourné vous-même donc ces images avec la collaboration de sportives, justement, de nageuses.
Ouais.
Vous pouvez nous en parler un petit peu de ce moment, comment ça s'est passé?
Bah là, ça, c'était la joie. Moi, j'adore la natation synchronisée et c'est vrai que ça faisait 15 ans que je voulais la filmer, cette discipline-là, parce que je trouve qu'elle est très ouverte. On peut interpréter vraiment de manière très différente... les chorégraphies, dans le sens où on peut y voir plein de choses. Et moi, j'avais très envie de la filmer de 3 manières différentes. Donc, il y a une manière un peu classique et en top shot, un peu comme les films hollywoodiens avec Esther Williams. Tout ça, parce que moi, j'aime bien dans les films que ce soit un peu spectaculaire aussi. Quoi. C'est-à-dire qu'on va au cinéma... Enfin, je sais pas, hein, je... Enfin, non, pas vraiment, mais en tout cas pour celui-là, j'avais envie d'offrir un spectacle aux spectateurs aussi qu'on peut pas voir à la télé, quoi.
Alors, je suis d'accord, mais moi je trouve que les moments de, enfin le spectacle, c'est aussi dans votre film des moments de pur cinéma. Par exemple, une mère et sa fille qui étendent un drap blanc.
Oui.
Par exemple, des enfants qui jouent. À s'arroser dans la rue, une séquence d'ailleurs vraiment très très belle et qui fait complètement écho à la séquence qu'on venait de voir avant et qui était justement cette vraie fausse captation de concours de nageuses de natation synchronisée. Est-ce que quand vous avez tourné ces séquences de natation, est-ce que vous vous êtes mis dans la peau d'un réalisateur de télévision qui filme une compétition sportive pour que justement ça ait l'air vraisemblable à l'écran, ou alors vous avez mis en scène tout ça avec votre œil de cinéaste et votre œil de photographe? Comment ça s'est passé, ça? Il fallait vous donner, vous êtes auto-brimé en quelque sorte?
Non, en fait, on a filmé un petit peu comme le film qui est à la frontière entre le réel et l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on a... En fait, pour le film, il fallait que ce soit crédible, que ce soit quelque chose qui passe à la télé. Mais en fait, les plans où on voit les nageuses au ras de l'eau, on ne voit pas ça à la télévision. On ne les voit jamais d'aussi près.
Je ne suis pas sûr qu'on les voit sous l'eau d'ailleurs aussi à la télévision.
Si, on les voit sous l'eau, d'accord. À la fin, justement, on voit l'un des personnages principaux. Fin...
Mais je veux dire, à la télévision, est-ce que c'est filmé sous l'eau?
Non, à la télé, il n'y a pas. Enfin, si, il y a des caméras sous l'eau, mais pour voir plus les formations, quand il y a un porté, par exemple, mm-hmm. où on voit les nageuses qui s'organisent. Voilà. Mais on ne voit jamais les nageuses aussi près, leur visage en effort, leur mouvement chaotique. On ne voit pas à la télévision. Et c'est vrai que j'avais envie de montrer. Enfin, je pense que la première spectatrice c'était moi. J'avais vraiment envie de voir aussi comment ça faisait sous l'eau et comment.
Ça peut être une bonne raison de faire du cinéma, ça d'ailleurs. Oh, écoute, tu voulais dire quelque chose.
Est-ce que l'idée de synchronisation a fait écho avec la synchronicité du personnage quand il fait l'expérience de ses rêves partagés
en... Oui, complètement. C'était un parallèle, en fait. Moi, j'avais envie de filmer le ballet de la rue, de cette rue particulière. Il n'y a pas beaucoup de monde dans la rue, c'est pas comme à Paris où on voit plein de gens, machin, en fait, pour moi, les trois personnages sont comme s'ils étaient synchronisés, quoi. Ils font les mêmes rêves. Ils s'observent les uns les autres et tout ça. Et effectivement, il y avait un désir de... À un moment donné, il y a une phrase que j'aime beaucoup dans le film, c'est dans les commentaires sportifs, quand les nageuses... marche le long de la piscine avant de faire leur chorégraphie, il y a la commentatrice qui dit à partir de maintenant elles ne forment qu'une. Ça c'est une phrase que j'aime beaucoup, je trouve qu'il résume un peu le film.
D'ailleurs vous parliez de cette rue donc, dans laquelle il y a cette autre forme de ballet, un va-et-vient de gauche à droite entre les différentes maisons. Je l'ai précisé, elles se ressemblent toutes, ces maisons. Mmh. C'est une rue très particulière. Comment vous l'avez trouvé, cet endroit? Il y a eu un repérage de fait? C'est un endroit que vous connaissiez, que vous étiez familière de ce lieu?
Complètement. En fait, c'est une rue à laquelle j'ai pensé immédiatement parce que c'est à Ouistreham, en fait, qu'on a tourné. C'est là où je suis née. Enfin, c'est là où j'ai grandi. Et c'est une rue où je passais tout le temps gamine pour aller à l'école et pour revenir. Et je me sentais tout de suite immédiatement bien dans cette rue, de manière inexplicable. Je pouvais marcher au milieu de la route, il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent. J'adorais le fait de voir les fils électriques apparents, les petites maisons basses, les petits jardins et tout ça. J'y ai jamais vécu, mais elle n'est pas loin de là où vit ma mère. Et elle est très esthétique. Et en fait, c'est des maisons de pêcheurs qui ont été construites pour les pêcheurs dans les années 30. Et qui sont transformés en logements sociaux. Et c'est une rue qui est vouée à disparaître à un moment donné. Ils ont voulu la démolir il y a quelques années. Il y a eu une pétition et finalement ils ont gagné. Donc ils ont gagné 30 ans. Moi j'aime bien filmer des lieux qui, je sais, vont disparaître. Dans tous mes films en fait, j'aime filmer des lieux qui sont destinés à ne plus exister et je veux pas qu'ils disparaissent. Donc du coup je me dis si on les filme, au moins, il y aura cette trace.
Vous avez parlé des rêves. Comme des rêves sont des expériences très complexes, donc il y a plusieurs aspects. Ça peut être visuel, ça peut être après. C'est de verbaliser, d'expérience, de partager les rêves. Quel aspect particulier des rêves, des rêveries, vous avez intéressé le plus pour faire le sujet de votre film?
En fait, je suis vraiment assez attentive à mes propres rêves. Je rêve toutes les nuits, je m'en souviens très bien le matin. Certains, je les note. Et du coup, j'avais fait un film qui s'appelle Film Collage 2 Introduction, il y a en 2018, où en fait, c'est un film de 6 minutes où, avec Astrid de France, qui joue dans Ostatonam aussi, où elle dort et on voit ce qu'elle rêve. Et il n'y a pas de paroles, il n'y a que du son. Je fais une série photographique sur les endormis où en fait je mets en scène mes amis et ma famille. Je fais des portraits où je les photographie. Enfin, c'est mis en scène donc ils dorment pas vraiment, mais à la fin ils ont envie de dormir donc c'est marrant. Et j'adore. Et du coup, c'est marrant avec ces photos-là, par exemple, parce que c'est proche de la mort. En fait, il y a des gens, ils pensent que la personne est morte sur la photo. Et je trouve ça très, très intéressant. Et dans le Statenham, j'avais envie beaucoup de... En fait, le rêve de l'autruche, par exemple, enfin, il y a un rêve qui revient tout le temps dans le film, c'est les personnages rêvent d'une autruche. Bah, c'est un rêve de ma mère. Je trouvais ça vachement canon, ce rêve qu'elle avait fait avec une autruche. Donc du coup, je me suis dit, tiens, maman, je peux le prendre, oui.
Encore une autre forme de collage.
Oui, et puis il y a un rêve d'une caravane où la mère de l'adolescente rêve qu'elle était dans une caravane qui bougeait toute seule et que c'était un peu angoissant. Ça, c'est le rêve d'une amie à moi.
Vous voyez, quand on interprète des rêves et on ajoute une autre interprétation, et quand vous avez dit que après avoir parlé aux gens pendant le festival, que comme si vous avez de nouveau vu le film ou interprété, j'ai l'impression qu'il y avait aussi une connexion de rêve, d'interprétation et de revoir votre propre film. Je ne sais pas si ça fait...
Bah, en fait, moi j'ai une volonté très forte, mais je pense comme beaucoup de cinéastes, hein, c'est d'ouvrir l'imaginaire des spectateurs et de leur laisser la place d'interpréter exactement comme ils le souhaitent au moment présent, donc avec leur âge, avec leur sexe, avec leur lieu de vie, avec le temps qu'il fait. Et que s'ils revoient le film, je sais pas moi, 10-15 ans plus tard, ils voient pas le même film en fait, parce qu'ils auront changé. L'époque aura changé aussi, et donc du coup, je veux pas imposer. Moi, j'ai ma vision du film perso. Bah, j'étais bien obligée pour le faire, de tenir quelque chose, d'avoir une cohérence et tout. Mais il y a quand même une volonté très forte. Enfin, c'est vraiment voulu de pas imposer un sens précis, en fait. Je sais pas si je suis claire.
Si, si, tout à fait. D'ailleurs, vous parlez de tenir le film. Ouais. On sent cette cohérence parce qu'il n'y a pas un seul plan ou une seule intention qui est gratuite dans le film. En fait, chaque plan aura une forme d'écho ou de transformation dans un autre plan. Enfin, c'est vraiment tout se répond, tout dialogue. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez singulier, en tout cas qui fait la force, à mon avis, de ce film. Et il y a une autre chose, vous parliez, on a parlé des différentes figures qui le travaillent, la présence de l'eau. On a parlé des rêves, mais l'eau et les rêves, hein, Gaston, si tu nous regardes.
J'ai essayé de le lire, j'ai pas réussi, j'ai pas compris.
C'est assez difficile, ça. Ouais. Mais en tout cas, voilà, cette eau qui alors qui est induite au départ. Je parlais de l'océan qu'on ressent un peu de manière hors champ. On entend les mouettes.
Ouais.
On croit comprendre qu'il y a un marin quand même qui est parti, qui est au téléphone. Enfin voilà, mais on la sent vraiment pas très loin. Et il y a cette eau évidemment de la piscine et cette eau des rêves. Quelque part qui déborde un peu de manière presque fantastique. Je pense à cette séquence où en fait cette ancienne nageuse qui est maintenant coiffeuse fait la vaisselle et trempe ses mains comme ça dans l'eau, et on a l'impression qu'elle est presque aspirée par cette eau qui devient du coup presque inquiétante. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet élément aquatique et de sa force comme ça, sa force de suggestion?
Bah, c'est un peu comme les couleurs, c'est un peu intuitif. C'est-à-dire que moi, je suis née à Ouistreham, du coup, et donc j'ai grandi près de la mer. Et je suis vraiment. Je me sens extrêmement bien quand je suis près de l'eau et j'oublie tout, et ça me fait vraiment un grand calme. Et donc, du coup, là, je vis à Paris, et avant, j'habitais pas très loin du canal de l'Ourcq, et c'était vraiment bien parce que du coup, j'allais sur le canal tout le temps. Et quand j'angoisse, je vais près de l'eau. Même à Paris, il y a la Seine, il y a le canal et tout
ça. On peut s'y baigner maintenant, il paraît. Alors, peut-être pas en ce moment, hein. Il fait froid.
Et effectivement, dans toutes les images de préparation qu'on a mis dans les dossiers, tout ça, toutes les images que j'ai glanées, il y avait beaucoup d'eau. De mains dans l'eau, de trucs comme ça. J'aime bien la transpiration aussi, par exemple. En fait, il y avait un truc qui était dans le dossier de départ que j'avais
dans votre note d'intention du
Oui,
coup.
Voilà. C'était qu'en fait, leur inconscient s'échappait d'eux comme la transpiration de leur corps.
Moi, j'ai pensé à la sexualité féminine, la sécrétion de je ne sais pas si j'interprète, j'ajoute des choses, mais est-ce qu'il y avait une dimension liée à la sexualité féminine et des pulsions avec de l'eau?
Non, c'était pas du tout, j'y ai pas pensé.
Non,
non, mais bah, du coup, j'y pense là.
Ça peut faire sens, c'est parce qu'il y a une vraie sensualité aussi dans la manière dont vous regardez ces corps.
Mais en fait, j'ai revu le film du coup là mardi, et je me suis juste dit, oh, je crois que j'aime beaucoup les gens en général, et que j'aime beaucoup filmer les corps. J'ai eu cette impression que j'avais filmé avec amour. C'est enfin même les personnages secondaires en fait qui sont aussi des personnages principaux pour moi. C'est vrai que c'est un petit peu c'est vrai qu'il y avait une vraie volonté, mais je pense que je peux aller plus loin dans d'autres films. Par contre, ça c'est un début quoi pour moi. C'est je suis déjà allé plus loin dans des films précédents d'ailleurs, mais c'est j'adore filmer les corps effectivement.
Et on le voit, et vous le faites d'ailleurs d'une manière qui fait ressortir cet aspect presque sculptural des corps, pas au sens de la beauté classique, tout ça, mais au sens où ils sont souvent...
Solennel, peut-être.
Pardon ?
Solennel ou...
Oui, voilà, il y a une solennité, ils sont souvent statiques. Et d'ailleurs, moi j'ai pensé, alors peut-être que je me trompe complètement, vous avez tourné en Normandie, mais on pourrait aussi être dans une forme d'Amérique rêvée, en fait, dans ce film. Moi, j'ai beaucoup pensé à Edward Hopper, la physionomie de cette voisine, d'ailleurs, la coiffeuse, qui a de faux airs de modèle féminin chez le peintre américain. Je pensais qu'il a beaucoup peint sa femme, et c'est vrai qu'il y avait quelque chose comme ça qui fait que ce personnage-là m'a fait penser à ce modèle qu'utilisait Edward Hopper. Et il y a aussi une fausse tranquillité dans certains plans, une inquiétante étrangeté, sentiment d'espace et de scène en attente de quelque chose, comme chez le célèbre peintre américain, une suspension. Est-ce que c'était, est-ce que vous y avez pensé vous, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que
on
pourrait faire le lien?
Si, complètement, parce que en fait, l'idée de départ avec la chef opératrice du film qui s'appelle Joséphine Douin-Vialard, dont je salue le travail, qui a fait l'image du film.
Nous aussi, alors on la salue.
Ouais. Moi j'avais ce que je m'étais dit au début, c'était que je voulais que ce soit comme des peintures qui bougent, comme des tableaux animés, donc que des plans fixes. Il n'y a pas de mouvement de caméra, il n'y a pas de travelling, il y a quelques panneaux, mais il y a beaucoup de plans fixes. C'est que ça quoi. Et du coup, on s'est inspiré des peintures de Vuillard. Mais c'est vrai qu'au peur aussi, j'aime beaucoup.
Les fenêtres aussi, je pense.
Ouais.
Et même cette zone pavillonnaire, en fait, qui
c'est pourrait, très américain.
C'est très américain, ouais.
Ouais, c'est
cette
vrai.
Lumière aussi.
Oui, la lumière, ouais, la lumière, ouais, clairement. Bah oui. Mais oui, effectivement, il y avait vraiment cette volonté de que ce soit très pas réaliste du tout, en fait, quelque part. Enfin, moi, je... C'était Vincent qui avait dit ça mardi. Je sais pas ce qu'il a dit vraiment exactement, mais il disait qu'il aimait le fait que ce soit très réaliste et en même temps complètement pas réaliste. Enfin, je veux dire qu'il y avait un pas de côté et que c'était pas du tout possible qu'une ville comme ça existe, mais qu'en même temps elle était très réelle et qu'elle s'inspirait vraiment de quelque chose qui existe en vrai. Oui, c'est vrai.
C'est un peu comme David Lynch aussi. David Lynch, vous voyez, le Inland Empire, où ça vient du réel, mais quand même, c'est trop réel pour être réel, peut-être, je ne sais pas.
Ou alors, c'est irréaliste, c'est irréaliste comme la vraie vie, telle qu'on la vit
là-haut. Oui, complètement. Oui, c'est ça. Oui, c'est complètement. Oui, je suis vraiment d'accord avec ce que vous dites, parce que c'est... Moi, je sais que j'ai une vision du... Enfin, je suis beaucoup dans ma bulle et tout. Je fais des rêves tout le temps. Donc, du coup, je suis très influencée dans la journée parce que j'ai rêvé la nuit, par exemple. Si j'ai fait un cauchemar, j'ai passé une journée assez affreuse. Et si j'ai fait un rêve agréable, tout est beau dans ma journée.
Alors, hier soir, la nuit précédente, vous avez fait un rêve agréable ou...
Alors, ça va, j'ai pas trop rêvé vraiment. J'ai juste des petites images par-ci par-là, mais j'ai pas vraiment une narration dans la tête là. Donc, ça va. Mais c'est drôle, j'ai dormi dans un hôtel. J'avais jamais dormi dans un hôtel de ma vie. Au début, je suis arrivée dans la chambre, enfin, à la porte, et je ne savais pas comment marchait la carte.
Alors, est-ce que ça vous a donné des idées de cinéaste, justement, ce lieu?
Je me suis imaginé vivre dans cet hôtel toute ma vie, du coup, hier soir. Et c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de déco, il n'y a rien et tout, c'est hyper angoissant. Mais c'était drôle parce qu'il y avait juste ce lit, cet énorme lit au milieu d'une pièce vide, qui c'est comme ça, faisait vraiment comme si on disait vas-y, dors, rêve.
Une injonction. C'était marqué sur le mur au-dessus du lit.
C'est ça, il n'y a rien d'autre à faire dans la chambre finalement que de dormir et de rêver.
Alors, au Statenham, c'est, on l'a dit, ce premier court-métrage que vous produisez dans un circuit entre guillemets officiel, enfin avec des producteurs, etc. On dit souvent que le court-métrage, c'est le strapontin, le galon d'essai avant de passer à une forme plus longue. Vous, votre envie de cinéaste là maintenant, que vous avez expérimenté, que vous avez raconté une histoire sous une forme un peu plus classique, même si elle ne l'est pas au fond, est-ce que maintenant vous avez envie de vous projeter vers cette durée canonique qui est celle du long métrage?
Oui, non, enfin oui, mais en fait, je vais rejoindre la conversation du début qu'on avait eue à propos du cinéma XP, du cinéma produit et tout. En fait, ce que je me suis dit après au Statenham, c'est que j'ai compris comment ça fonctionnait le cinéma autoproduit, j'ai compris comment ça fonctionne le cinéma produit, et en fait je vois la limite des deux et je vois la liberté des deux. Et moi je voudrais faire un film qui allie les deux libertés, en fait. Maintenant que j'ai observé comment ça se passait à un film produit, je suis plus à même de savoir où je veux aller et comment je veux faire un film maintenant. Et en fait, j'aime bien faire des trucs que je n'ai jamais fait. Donc, du coup, je voudrais faire un documentaire, le prochain film. Mais un triptyque documentaire. Donc, du coup, ce serait 3 films de 25 minutes. Donc, ça reste du court. Mais finalement, ça constitue un triptyque.
Il ne devient qu'un seul.
C'est ça, et voilà, exactement. Et du coup, comme j'ai jamais fait de docu, ça m'intéresse vachement d'aller dans cette direction-là. Et après au Statenham, j'ai refait un film expérimental très court de 5 minutes 30 que j'avais beaucoup fait avec le bon titre à l'Abominable, qui est une machine pour filmer les images fixes. Donc j'avais filmé beaucoup d'objets, de collages, comme ça. Et ça m'a fait grand bien de refaire un film expé. En fait, je pense que j'ai tellement de désirs et de projets, d'idées, que je n'aurai pas assez de temps pour tout faire.
Bon, nous, on suivra en tout cas avec grand intérêt ces évolutions qu'on imagine passionnantes de votre cinéma. Et on vous remercie beaucoup d'être venu à ce micro, Naïs Cyber. Merci.
Merci beaucoup à vous.
Merci.
Fluxfort. Mécanisme velouté. Mixage fusionnel.